Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 924 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous ne sommes pas en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine, mais comme vous tous, confinés pour ce dernier week-end de confinement. En tout cas, souhaitons-le. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, comme chaque samedi dans notre émission. Philippe Aubrac, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Alors, on a reçu plein de mails, plein de mots, de textos sur votre métier cette semaine, mon cher Philippe. Comment fait-on pour devenir sommelier? Est-ce que c'est sanctionné par un diplôme? Et ensuite, quand on l'obtient, est-ce qu'on est certain de trouver un job?
Alors, oui, c'est sanctionné par un diplôme. Depuis un certain nombre d'années, il y avait avant un CAP de sommelier qui existait et qui a été remplacé par ce qu'on appelle les mentions complémentaires en sommellerie. C'est une formation d'un an ou de deux ans après une première déjà formation dans le métier de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, il faut déjà avoir fait une formation de cuisine, de service ou de gestion avant, effectivement, de rentrer dans cette formation. On peut aussi, sur le terrain, avec trois ans d'expérience, obtenir une formation qui s'appelle le brevet professionnel de sommellerie et qui dure deux ans sous forme d'unité de valeur et d'acquis de compétences. Et voilà, donc, il y a ces deux formations qui existent. Après, il y a des formations privées qui peuvent être aussi dispensées. Mais il ne faut pas oublier que le sommelier, c'est un métier qui a été défini maintenant de façon très précise par l'OIV, l'Organisation internationale du vin, avec un certain nombre de principes, de définitions, de rôles, et aussi un certain nombre d'heures, ou en tout cas d'études, pour pouvoir revendiquer.
Oui, c'est encadré, quoi. Philippe, exactement. Indépendant de cette période compliquée, évidemment, pour la restauration, est-ce qu'on trouve facilement un job quand on est un jeune sommelier? Enfin, c'est-à-dire qu'il y a pénurie, ou au contraire, il y a une demande qui est supérieure à l'offre?
Oui, il y a pénurie, c'est vrai qu'on a un peu du mal à trouver des sommeliers. Il y a environ 350 sommeliers qui sont formés chaque année par les différents centres de formation en France. Partie par à l'étranger. C'est vrai qu'ils sont jeunes, ils ont envie de voir du terrain et ils ont raison d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe aussi. Certains ne reviennent pas parce qu'ils ont trouvé chaussures à leurs pieds, autant professionnels que personnels, dans différents endroits du monde. Ceux qui restent en France, une partie vont vraiment aller exercer comme sommelier. Les autres ont fait ça comme une formation complémentaire pour avoir, j'allais dire, une vision de la sommellerie, mais ne vont pas nécessairement l'exercer. Donc, du coup, chaque année, c'est assez tendu et on se pose une vraie question en ce moment avec les sommeliers formateurs, que je salue et que je remercie du travail qu'ils font. Je veux dire, c'est très important. Mais également l'éducation nationale, les pouvoirs publics, pour essayer de faire en sorte que le métier de sommelier soit encore davantage vu. Moi, au niveau de l'Union de la sommellerie française, et vous le rappelez souvent, mon cher Alain, je suis le président actuel de l'Union des sommeliers françaises. On œuvre beaucoup pour effectivement susciter des vocations. On a fait un film qui est disponible sur YouTube en ce moment-là, et surtout dans ce période de confinement qui a été très visionné, qui s'appelle Sensation, qui montre un peu les différentes facettes du métier. Et il y a vraiment la possibilité d'exercer ce métier d'une façon assez libre et salutaire, puisque franchement, il n'y a pas de chômage pour les gens qui veulent exercer ce métier. Mon cher Alain, alors, j'ai l'impression qu'on a perdu Alain, mais on n'a peut-être pas perdu notre invité du jour, qui est François Van Hal. François, bonjour.
Bonjour Philippe.
Bon, je suis ravi que vous soyez avec nous ce matin dans l'émission. Donc François, vous êtes président des Champagnes Lançon et de Lançon International Diffusion. Alors, quelle est un peu, j'allais dire, votre actualité et ce que vous avez mis à profit pendant cette période de confinement?
Oui, en effet. Alors, bonjour Philippe. J'espère qu'on va récupérer Alain.
Oui, on va retrouver dans quelques instants. Il va se reconnecter.
Oui, j'ai eu la chance de rejoindre donc le Champagne Lançon janvier 2019 et je m'occupe de cette marque à la fois au niveau aval et au niveau amont.
Alors 260 ans d'histoire, c'est quand même une belle épopée. 260 ans.
Ouais, presque trois siècles d'histoire en effet. Lançon a été fondé en 1760, une histoire magnifique qui a traversé les guerres, mais c'est également des vins exceptionnels et puis surtout des personnes humains très très engagées et très motivées par l'entreprise. Donc une belle maison de champagne historique.
C'était pas évident. Alors je vois que notre ami Alain.
Oui, bien sûr.
Vous parmi nous, Alain.
François, racontez-nous comment vous avez vécu donc cette partie, ces deux mois de confinement d'un point de vue business avec la maison Lançon.
Oui, alors de façon très pragmatique, on a été bien sûr touché de plein fouet, comme l'ensemble des pays et puis des industries. On a On est parti en fait en confinement pour la plupart des équipes dès le 17 mars. Oui. Une partie en télétravail. Certains ont profité pour prendre des congés, hein, nettoyer un petit peu les RTT, les congés leurs supplémentaires. Et puis certains également en chômage partiel. Notre priorité, bien sûr, c'est la santé, la sécurité des collaborateurs.
Combien de personnes dans le groupe au total, François ? Vous êtes combien de
salariés ? On est 150 personnes, environ 110 oui. sur la marque Champagne Lançon, et puis une cinquantaine, 40-50, sur Lançon International Diffusion au et total, notre filiale de distribution sur le marché français.
Alors François, le champagne, c'est synonyme de fête, de fiesta. En ce moment, c'est plus compliqué. Les ventes sont en berne, hein, toutes maisons confondues. On est sur des mois à moins 60%. C'est énorme, François. Ça va être compensé, selon vous, ça ?
C'est énorme, en effet. Je ne pensais pas un jour présenter des chiffres aussi mauvais. Je pense que ça reflète l'ensemble des industries et puis le vin, le champagne en particulier. C'est vrai que les vins plutôt haut de gamme ont été davantage touchés que les vins entrée de gamme. On a été énormément touchés au niveau mondial par l'arrêt soudain en France, oui. en Angleterre, aux US, de la partie restauration, gastronomie, bar, qui a été complètement fermée. Par contre, la partie, je dirais, grande distribution, ce qu'on appelle retail en anglo-saxon,
ça, est restée ça marche active. Pas mal, non ?
Et ça nous a permis de continuer certaines expéditions, mais je dirais très réduites. Et en effet, ouais. Alain, on est dans les moins 50 à moins 70%.
Oui, c'est beaucoup. Quoi. Philippe Forbach, racontez-nous. Est-ce que le champagne est trop dépendant à la France, selon vous, Philippe ? Est-ce qu'il n'y a pas une ventilation, un risque pays supérieur, même si malheureusement aujourd'hui, ça va mal partout ? Mais on voit quand même beaucoup trop de Français boivent du champagne. Ça, c'est une formidable idée. Et par contre, on n'en vend pas assez d'export, non ?
Alors, on peut l'imaginer, mais quand même, le champagne est un produit particulier avec d'abord une réputation mondiale, une référence mondiale. Et même si selon les maisons, il peut y avoir des marchés plus ou moins forts, l'Angleterre est un très bon marché, oui. les États-Unis sont un bon marché, mais la Suisse, l'Italie, etc., il y a des marchés très porteurs comme ça. Et puis, on peut imaginer qu'avec le déconfinement et puis une normalisation qui, j'espère, pour la planète, hein, va se mettre en place le plus tôt possible, les marchés asiatiques vont continuer à progresser parce que finalement, les marchés… le Japon n'a pas mal progressé, il était assez peu consommateur de champagne il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, ça va mieux. Le marché d'avenir, comme souvent, c'est la Chine.
C'est la Chine, quoi, bien sûr.
Mais aussi d'autres marchés. L'Inde, par exemple, est un marché qui n'est pas intéressant.
Vous vendez beaucoup en Chine, François ?
Pas encore, mais c'est vrai que c'est un marché à fort potentiel. Juste pour rebondir sur le point de Philippe, en effet, l'appellation champagne, c'est environ 300 millions de bouteilles par an, en tout cas en 2019. On estime qu'en 2020, on va se prendre une grosse claque et on va être autour de 200 millions. Est-ce que ça va être 220 millions ou 180 ? Encore une fois, on n'a pas une boule de cristal pour les prochains mois. Et un peu moins de la moitié de ces 300 millions sont en effet la France. Donc, c'est 140 millions la France, 160 millions l'international, et tous les ans, l'export prend plus et plus de parts de marché.
François, cette crise, ce Covid-19, est-ce que ça a des conséquences sur la nature, le vignoble champenois ? Il y a des choses qui ont changé, qui ont été modifiées pendant ces quelques semaines ?
Non, alors c'est un bon point parce que ça n'a pas eu de conséquences directes sur le vignoble. Par contre, depuis plusieurs années, le réchauffement climatique a eu des conséquences très pratiques, notamment tous les ans, une avancée de la date de vendange. Là, on parle en 2020 d'une vendange très précoce autour du 20 août.
Du 20 août, quoi. C'est-à-dire que Philippe Forbach, il y a quelques années, on était à combien ? C'est-à-dire qu'on était quasiment à fin septembre. On a gagné quoi ?
On était très souvent en octobre pour les champagnes pendant très, très longtemps. Septembre, c'était un peu l'exception. Et août, et c'est dans l'histoire que l'on connaît de la Champagne, c'est quand même arrivé très, très, très souvent.
Ah, mais les Bahamas, on peut bien se tenir, les Seychelles aussi, parce que maintenant, c'est Reims. Reims et Épernay, quoi.
Oui, François, peut-être une petite question. Pas trop de problèmes de main-d'œuvre, justement, dans cette période de confinement ? Parce que la ville pousse, on a bien vu qu'il faisait beau en Champagne et ailleurs.
Tout à fait, c'est un très bon point et c'est un gros sujet pour l'ensemble de l'industrie champagne au niveau des vendanges, puisque une très grosse partie des personnes qui s'occupent des vendanges chaque année viennent de l'Europe, hein, différents pays, Espagne, Portugal, Pologne, Italie. Et on se pose des questions si ça a lieu fin août, à la capacité de ces personnes à venir dans les vignes pour travailler. Et donc, la main-d'œuvre risque d'être un problème. Vous savez également qu'on parle énormément d'appellations en ce moment. C'est le sujet chaud en Champagne, puisqu'on essaye de refléter en fait le nombre de kilos par hectare par rapport aux expéditions. 2020 va être une année clairement qui va être touchée de plein fouet par le coronavirus. Et du coup, l'appellation, ce qu'on appelle l'appellation, c'est le nombre de kilos par hectare, va être décidé très prochainement, courant juin, courant juillet.
Pour tenir compte de la régulation du marché. Et on s'attend à une appellation
très basse.
Philippe Forbrac, vous nous rappelez comment ça se passe, les bulles dans le champagne? Est-ce que les bulles sont naturelles ou alors c'est la pâte du vigneron qui les crée?
C'est l'observation qui a fait que, voilà, et le hasard de la vie. Hein. Alors, David Cobold ne sera avec nous demain, donc il ne va pas pouvoir expliquer le point de vue anglais, voilà, de par ses origines. Mais c'est vrai que, vraisemblablement, les Anglais ont été observateurs et peut-être un peu précurseurs en la matière. Les bulles viendraient peut-être, bien entendu, même si aujourd'hui elles sont très connues en Champagne, elles viendraient peut-être un peu plus du sud de la France. On faisait aussi des vins effervescents ailleurs. La méthode champenoise, rapidement, c'est deux fermentations. Une fermentation traditionnelle en cuve. On met en bouteille pour la deuxième fermentation. Et là, il y a le gaz magique et les levures qui travaillent et qui vont donner le charme particulier, effectivement, à ces vins de Champagne.
Des vins de Champagne. Le bio, ça vous concerne, François Van Hal?
Tout à fait. Tout à fait, puisqu'on a 16 hectares en viticulture biologique et biodynamique dans le village de Verneuil, en plein cœur de la vallée de la Marne. Et on a dans notre gamme de 10 produits, un produit 100% biologique qu'on a appelé le Green Label Lançon.
Lançon. Et donc ça marche bien? C'est touché également par la crise ou ça fonctionne bien?
Alors, c'est également touché par la crise, mais ça fonctionne bien de façon générale parce que je pense qu'il y a une tendance de fond au niveau mondial pour le développement durable, le respect sociétal à la fois du sol, des vignes et de l'homme. Et je pense que quand on met en avant un produit biologique ou organique, on dirait en anglo-saxon, ça marche très bien.
Ouais, ça permet,
donc, 16 hectares, ouais. C'est environ 100 000 bouteilles par an qui sont vendues, je dirais, plus facilement que le reste de la gamme.
Et la tendance, François, c'est d'en produire plus chaque année ou alors de rester toujours dans une logique de qualitative avec des faibles volumes?
Alors, logique qualitative, faible volume. De toute façon, on a une quantité de raisins par hectare. On est limité, nous, avec
notre quantité, oui, vous êtes limité, quoi.
À 16 hectares, qui est environ 100 000 bouteilles. Donc, c'est vraiment
100 000 bouteilles.
La qualité avant la quantité et puis valoriser, bien sûr, ces vins.
Ces bouteilles, quoi. Merci beaucoup, François. Merci également, Philippe Forbrac. Dans quelques instants, le retour de Invino sur Radio pour partir à la découverte du château de Langaran, un domaine magnifique, des vins merveilleux. Nous serons aux portes de la jolie ville de Montpellier.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Vous êtes de retour sur Invino Sud Radio, la seule émission 100% dédiée aux amateurs de vin. D'ailleurs, vous nous écoutez chaque week-end. Et puis, vous pouvez également aller sur notre page Facebook Invino pour nous signaler vos vignerons coup de cœur. On va les contacter et ensuite, on va les inviter dans l'émission. À mes côtés, toujours Philippe Forbrac et François Van Hal pour partager le sourire de notre invité, Diane Losfeldt, propriétaire du château de Langaran. Bonjour Diane.
Bonjour Alain, bonjour.
Alors,
tout
je vais
monde.
Le préciser de tout à l'heure, là, votre domaine est juste aux portes de Montpellier. Vous avez de la chance.
Ah, c'est ce qu'on appelle une folie qui fait partie de la guirlande des châteaux de Montpellier. Et j'insiste, je suis propriétaire, mais copropriétaire. C'est une propriété familiale.
Exactement, c'est une propriété familiale et votre mari, Denis, on l'embrasse. Alors, racontez-nous votre histoire, Diane, la partie avouable, hein, côté vin, là, l'histoire de Diane de vin. Vous êtes passé de chercheur à l'INRA, à vigneronne et chez entreprise.
Oui. J'ai souhaité trouver un métier à embrasser largement. Je voulais des responsabilités, j'ai été servie, oui.
Ouais. Vous êtes également passé du côté d'un beau château, le château Lafitte, qui vous a apporté beaucoup de choses.
Ah oui, formidable. Ma mère avait côtoyé Éric de Rothschild pendant une formation à Bordeaux et quand j'ai cherché mon premier stage, elle m'a dit « écris-lui ». Et j'ai été la première stagiaire de Château Lafitte. Et depuis, l'agro de Montpellier a chaque année un ou deux ou plusieurs stagiaires qui vont à Château Lafitte. Formidable.
L'historique de Langaran, tout débute quand j'ai 1632 comme date. Alors, on a parlé tout à l'heure avec François des 260 printemps de la maison Lançon. Vous, c'est pas mal aussi, hein?
C'est pas mal. Alors, c'était pas ma famille, mais on est très fiers de cette histoire. 1632, un Italien vient en France et s'achète ce domaine, lui laisse son nom et on lui obéit encore aujourd'hui. On s'appelle Langaran, il venait de Padoue. Voilà.
De Padoue, quoi. Philippe Forbrac, parfois, il y a des châteaux dans le Bordelais ou en France en général sur les étiquettes, mais alors, il n'y a pas de vrai château. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal, ça, ou pas?
Oui, c'est des fois des notions un peu vagues, les notions de château.
Monsieur est suisse, vous êtes suisse, Philippe Orban, non ?
Une bâtisse suffit, et c'est vrai qu'il y en a qui osent ne pas mettre, par exemple, Pétrus ne met pas château Pétrus sur l'étiquette. Et c'est vrai qu'il y a juste une belle bâtisse, mais ce n'est pas franchement
un château. Mais il n'y a pas un château, quoi. Oui.
Donc, comme quoi, on peut avoir le sens du respect, de l'humour, ou de la modestie, peut-être.
Bon, allez, Diane, vous avez un vrai château.
Langaron est classé monument historique.
Alors, c'est ça, voilà. Vous êtes classé.
S'il vous plaît,
vous avez 60 hectares de vignes. Quels sont vos principaux cépages, Diane ? Ils sont tous autochtones ou vous avez également mis des choses un peu originales ?
Alors, bien sûr, on a Syrah, Grenache, Carignan, il en faut un peu. Mourvèdre, depuis une dizaine d'années. Et en Pays d'Oc, je me suis amusée avec le Cabernet Franc, apporter la touche gourmande du Cabernet Franc avec la maturité du sud de la France, c'était intéressant. Et j'ai du Sauvignon.
Ah, très bien.
Magique.
Est-ce qu'il paraît que vous avez des lionnes aussi ?
Oui, avec ma sœur, on nous a surnommé les lionnes et forcément, on a une statue de lionne. Et j'ai fait une belle cuvée en blanc et en rouge qui s'appelle la lionne. Ouais.
La lionne, quoi. Donc, vos cuvées, alors vous avez quoi comme appellation ? Vous êtes en IGP, en AOP ? Vous êtes en
la hiérarchisation, c'est mon credo. J'aime bien faire la pyramide. Nous sommes Pays d'Oc autour de la colline de Langaran. Puis, nous sommes Languedoc, c'est notre base. Et dans le Languedoc, nous sommes Grès de Montpellier. Philippe, d'accord. On n'a pas pu les appeler graves de Montpellier, on ne sait pas pourquoi, mais bon, le terrain, c'est des graves. Donc, on les a appelés grès de Montpellier, comme le mot languedocien, et ensuite le fameux terroir de Saint-Georges-d'Orc historique, connu depuis le Moyen-Âge.
Alors, Diane, racontez-le tout à l'heure avec François Vanal, le président de la Maison Lançon, on parlait des difficultés du champagne en général, hein, avec des chiffres mauvais, hein, de moins 60% sur les volumes de vente. Vous également, donc c'est une entreprise plus modeste, hein, familiale. Vous souffrez également, vous avez du mal avec notamment votre clientèle de café, ouais, hôtel et restaurant ?
Évidemment. 25% de ma clientèle, ce sont nos amis restaurateurs. Donc, on est en stand-by. 30% nos amis cavistes, quelques-uns ont continué à fonctionner, d'autres pas. Et heureusement, on a continué à lier des relations avec nos clients particuliers. Et merci à eux, c'est eux qui nous ont maintenu ce petit chiffre d'affaires qui nous permet de continuer à travailler les vignes.
Allez, il faut aider les vignerons français. Il faut déguster avec modération, mais régulièrement, des bons produits français. Diane, il paraît qu'à une époque, on vous a surnommé Madame Rosé au syndicat du Languedoc.
Oui, quand j'ai fait mon premier rosé en 1988, ma mère m'avait dit « c'est pas du vin ». Alors, je crie haut et fort, le rosé, c'est un vrai vin. C'est, ça se travaille, ça se réfléchit, ça parle du terroir. Et au niveau du Languedoc, oui, j'ai porté la parole du rosé.
Parce ça mérite
que je
respect.
Pense que le Languedoc peut en faire et du très bon.
Ouais. François Vanal, dites-nous, au niveau du champagne, le champagne rosé, ça représente quoi sur la gamme Lançon ?
Ça représente un beau 12-15% business.
Et c'est une tendance durable, ça augmente ou pas, François ?
Tendance durable qui augmente, il y a des beaux marchés rosés, c'est un marché qui permet aussi de valoriser le produit et puis de sortir un peu du brut sans année classique. Donc, ouais. C'est un produit important dans la gamme, pour nous
dans
et
la gamme.
Pour l'ensemble des champenois.
Philippe Orbach, racontez-nous, parce qu'au début, à l'époque, le rosé, c'était pas considéré comme un vrai vin, je suis désolé, hein. Ça a bien changé aujourd'hui, avec un niveau qualitatif qui est quand même étonnant.
Oui, j'ai beaucoup aimé la réflexion de Diane qui disait qu'effectivement, sa maman lui avait expliqué que c'était pas franchement du vin. Moi qui suis né en Provence et qui suis né dans des régions et des cuves de rosé, effectivement, je peux constater depuis longtemps que c'est non seulement un vrai vin, mais un vin qui a aujourd'hui acquis ses lettres de noblesse. Oui. Alors, le champagne est un bel exemple d'une reconnaissance parce que quand on s'offre du champagne et qu'en plus on y va vers du rosé, ça valorise les deux. Et dans le sud de la France, dans le Languedoc, et en Provence, en Corse aussi, et dans d'autres endroits, on a vraiment des très jolis rosés, techniquement mieux élaborés, grâce notamment aux équipements. Le froid, par exemple, est un bon élément. Mais ce que j'aimerais souligner aujourd'hui et insister un peu, c'est la difficulté cette année, en particulier peut-être de vendre des rosés. On a bien vu que voilà, on était confinés, qu'il y avait moins de ventes de rosés. Or, le rosé, il y a une certaine saisonnalité. Néanmoins, c'est maintenant que les gens font leur business, qu'ils font leur commercialisation des rosés pour être bu cet été. Et je pense que ça va être une année difficile. Donc, soutenons les viticulteurs français, mais pensons aussi à consommer rosé dans un premier temps.
Consommer rosé. Avec modération, mais régulièrement,
Philippe. Exactement.
Diane,
le rosé, pardon, Alain. Pardon, oui. Juste pour terminer sur le rosé. Le rosé est devenu aussi un vin de gastronomie et même pour certains terroirs, des vins de garde.
Oui, c'est ça.
Les rosés languedociens.
Il faut le dire,
les rosés
il faut
le préciser. Bandol, les rosés de palette, etc. sont des vrais rosés qui peuvent se garder plusieurs années et pas juste être consommés dans l'année.
Dans l'année, quoi. Diane, dites-nous au niveau du contenant, le magnum, ça se vend beaucoup chez vous? C'est-à-dire qu'il y a une tendance aussi de passer de la bouteille au magnum ou, donc un magnum étant 2 × 75 centilitres ou pas trop?
Moi, je crois beaucoup au magnum parce que quand j'aime énormément. Je pense que le vin, c'est du partage et j'ai au moins 4 magnums dans ma gamme. C'est le cadeau. Quand on va chez des amis, c'est souvent moins cher qu'un bouquet de fleurs et en plus, on peut le partager.
François Bonal, vous en pensez quoi? Je sens que vous allez être d'accord, François, avec Diane. Je ne sais pas alors, pourquoi. Hein.
100% d'accord avec Diane. On a également une très belle collection de vintage. De millésime en format magnum qui remonte à 1904 dans les caves Lançon. Et on serait ravis d'accueillir l'ensemble des auditeurs pour une visite du site.
Puisqu'on a des... 6 millions de personnes, ça fait beaucoup, François.
Moi, 6 millions d'auditeurs, ça fait beaucoup.
Alors, on a 10 000 visiteurs par an, on serait ravis d'en accueillir 6 millions.
Diane, racontez-nous. Le Notori, vous travaillez toujours en famille, hein. Il y a votre nièce.
Alors voilà,
digital.
On passe à la 6e génération à Langarant et la 4e génération
de femmes.
Donc ça, c'est formidable. Émilie Grill, ma nièce, donc, est rentrée en décembre dernier et elle chapeaute, heureusement pour nous en ce moment, dans ce confinement, toute la communication, tout le digital. Oui. Et tout le no-tourisme, alors elle fait un démarrage compliqué, évidemment, puisque tout s'est arrêté.
Oui.
Et ça va reprendre, forcément. Et puis, elle a la vie devant elle. Donc,
oui, c'est
venez à Langarant. Soyez donc 10 000, parce que 10 000, pour nous, ça serait très, très bien. 3 hectares de parc à la française.
On va affréter un avion direct entre Lançon et Langarant. Quoi. Diane, le 2 juin, Philippe Forbach aussi concerné, on va avoir pas mal d'annonces, notamment le tourisme, hein, la restauration, l'hôtellerie aussi. Vous espérez vraiment que les touristes français au moins pourront venir massivement vous rendre visite, vous dire bonjour sur ces mois de juillet et août. C'est important pour vous?
Très important. Très important, c'est fondamental. Nous, on a lancé en fait le déjeuner au pré, le goûter au pré, le goûter au jardin exactement, où on accueillera librement dans le jardin de Langarant avec un petit panier pour que ceux qui ont été confinés, qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, puissent s'asseoir dans l'herbe au milieu des statues et déguster la dive bouteille.
Avec modération. Bien sûr, bien sûr. Et ils vont pouvoir également regarder les lionnes. Alors, c'est une question bête, mais c'est pas grave. C'est un pléonasme. Il y a beaucoup plus de femmes en ce moment dans le domaine des vins et spiritueux. C'est une chance pour ce secteur d'activité. Vous en pensez quoi? Pourquoi est-ce que les femmes se réveillent de plus en plus pour travailler à côté des garçons?
Parce qu'elles ont du goût. Dans tous les sens.
Ça, c'est pas d'aujourd'hui.
Bien sûr. Ouais. Hein?
Elles ont du sentiment. Et elles se laissent porter par leurs sentiments, leur feeling. Après, c'est un monde qui est relativement difficile. Il faut gagner des places, il faut se frayer un chemin. Moi, j'y crois. On a une touche. On est complémentaires. Venez. J'ai eu du mal, moi, à fédérer des femmes autour de moi. J'étais la première à rentrer au syndicat Languedoc. Et c'est difficile de faire prendre aux femmes des places syndicales, des places de représentation. Et pourtant, notre parole doit s'entendre.
Oui, c'est important.
Nous ne sommes pas que celles qui tenons les caveaux.
François Vernal, vous qui avez fréquenté également le secteur des spiritueux, dans les spiritueux, dans le champagne, les chefs de cave, des maîtres de chais, il y a de plus en plus de femmes également qui embrassent ces beaux métiers.
Tout à fait. On entend chaque année le mercato des chefs de cave en champagne et de plus en plus des femmes arrive à la tête de grandes maisons. Donc, c'est vraiment bien parce qu'en effet, les femmes apportent un nez, une sensibilité, une émotion et des mots qui sont tout à fait intéressants. Et la bonne complémentarité, le bon équilibre entre chef de cave homme et femme, pour moi, va dans le bon sens. C'est parfait.
Philippe Forbach, certaines personnes définissent un vin comme étant un vin féminin. Alors franchement, ça fait des années que je cherche, je n'ai toujours pas trouvé. C'est quoi un vin féminin?
Non, mais il y a des bons vins et il y a les autres. Déjà, ça, c'est la base. Et ensuite, non, mais c'est vrai que selon les époques, on a utilisé des termes qui pouvaient faire penser à des références, voilà, de lieux, de parfums, de corps humain, de façons d'aborder le sujet. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une époque où c'était essentiellement les hommes qui s'occupaient du vin, mais aujourd'hui, grâce d'ailleurs à la mécanisation, parce que c'est un métier, Diane le disait tout à l'heure, c'est un métier dur, physique, etc. Oui. La mécanisation a finalement apporté plus de facilité de travail, plus de confort également. Et du coup, ça a permis aussi à la gente féminine de s'exprimer davantage, en tout cas d'être accueillie plus facilement.
Bien sûr.
Et c'est que justice, parce que comme Diane le disait tout à l'heure avec un petit sourire, mais qui lui va bien, les femmes ont du goût. J'allais dire aussi, parce que bien entendu, nous avons
tous les garçons du goût aussi.
Et c'est pour ça que les femmes et les hommes s'apprécient mutuellement. Exactement.
Le digital, c'est important pour vous, Diane ?
Le digital, je l'ai confié à Émilie. Oui, je pense que ça a été notre relation avec nos clients et ça le sera de plus en plus. Vive la jeunesse, vive la modernité. voilà, les relations humaines qui nous manquent tellement, on les a peut-être retrouvées via le digital.
Peut-être. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Diane Losfeldt. Merci également à vous, Philippe Forbrach et François Van Aal. Merci également aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque semaine dans le monde. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook, celle de Invino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission. Nous ne serons pas chez Nicolas parce que nous serons confinés pour le dernier jour. En tout cas, on le souhaite. On parlera de tonneau, on parlera d'appellation Bandol Jurançon. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, soutenez tous les vignerons français, surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération. Salut, à demain.
Sud Radio, Invino.